Madame Graffière, j'ai un jugement à déposer dans le premier dossier, peut-être appeler la cause. Là.
Oui. Igor Barchenko contre les États-Unis d'Amérique.
Good morning, Your Honor. Tristan Jarry on behalf of the United States.
Good morning, Eric Montrestin from the State of Nikovich.
Can I have a seat? So the court has to deliver its judgment, which reads as follows. The United States of America submitted a formal request for the provisional arrest of the petitioner, Igor Dobievich Barchenko, based on the alleged offense of fraud perpetrated in the U.S. sometime in 2004 through the Internet network. This formal request, according to the record of the case, ROC, follows an investigation launched by the U.S. Postal Inspection Service and the U.S. Secret Service into fraudulent activities occurring at commercial mail receiving agencies in Syracuse, New York, and Panama City Beach, Florida. The investigation disclosed that the CMRA addresses were used as shipping addresses for articles such as laptop computers and other electronic devices purchased through the use of credit card accounts. The items were purchased without the permission of the true credit card account holders, usually through the Internet network. They were reshipped to various locations such as New York City, Montreal, Russia, and Eastern Europe. The petitioner orchestrated the fraudulent activity together with other individuals living in the United States. The investigation also reveals that the petitioner was involved in a separate eBay auction scheme in which U.S. citizens were deceived into sending expensive items to addresses controlled by petitioner while receiving only envelopes with pieces of blank paper in return. The losses attributed to petitioner or the people controlled by him amounted to $156,000. On March 25, 2010, petitioner was arrested pursuant to an arrest warrant signed by my colleague, Justice Vincent. On April 6, 2010, petitioner presented a motion for judicial interim release under Section 18 of the Extradition Act and Section 515(2) and 10 of the Criminal Code. At the hearing, Mr. Alexander Katz, together with Mrs. Yulia Katz, testified on behalf of petitioner. Both individuals are willing to act as surety. Mr. Katz is willing to sign as a surety for $25,000, and Mrs. Katz is willing to deposit a similar amount into the court record and accommodate him at her apartment. Mrs. Katz is petitioner's former wife and was living with him at the time of his arrest. The petitioner is a Canadian citizen and has been living in Montreal since 1999, where he owns an apartment. He has been unemployed for many years, but alleged that he was receiving money from family members living in Russia. The evidence established that petitioner was able to purchase luxury cars to both himself and his former wife, and that he travels overseas with her every year, assuming all expenses incurred by the couple. In 2006, he pleaded guilty to a charge of driving while impaired and was fined $805. He also pleaded guilty to a charge of refusing to comply with a demand related to the same infraction. He was fined another $805 and received unconditional discharge for those infractions. He also received unconditional discharge for acts that occurred respectively in September 2002 and August 2003. He holds three passports, one Canadian, one Russian, and one Israeli, the latter being expired. The respondent, the United States of America, suggests that petitioner has not met his burden referred to at Section 515(10) of the Criminal Code. The court has to decide whether petitioner's detention is necessary to ensure his attendance in court in order to be dealt with according to law, for the protection or the safety of the public, and whether his detention is necessary in order to maintain the confidence in the administration of justice. The respondent suggests that petitioner is a flight risk, and given his numerous passports together with his regular travel outside the country, there would be a strong possibility that he would not be present in court to be dealt with according to law. More particularly, in a letter dated March 26, 2010, Mr. Edward R. Broughton stated the following, and I quote, "The charges faced by the defendant in the United States are serious. Each of the 14 fraud counts carry maximum punishment of 20 years in prison. While it is unlikely that the defendant will receive a maximum sentence, a substantial term of imprisonment is likely given the nature of these crimes. The potential for significant incarceration provides an incentive for Barchenko to flee. Furthermore, the respondent underlines the fact that both Mrs. Yulia Katz and Alexander Katz are not independent surety, inasmuch as the evidence has established that Mrs. Katz has no assets whatsoever, is unemployed, and that her income comes directly from petitioner. As for Mr. Alexander Katz, the evidence also established that he has no money of his own and that his signature as a surety has no value whatsoever. The petitioner's attorney argues that his client does not represent a danger for society and that he did not commit violent crimes. Although a fraud offense is a very serious charge, the record of the case only referred to a minor fraud with a value of $156,000. As for the first criteria, whether the detention is necessary to ensure his presence in court when required, the court refers to the comments made by Justice Marie-France Bisch of the Court of Appeal on the notion of risk of flight as follows, and I quote, "The evaluation of the risk of flight, or the willingness of an individual to surrender himself and not try to escape justice, is in and of itself a delicate process. Rare is the case where one can state with absolute certainty that there is not even the possibility of flight. There always is some risk. And if the threshold were that of absolute certainty, no one would ever be released from interim or provisional detention or be granted bail. We must thus be satisfied that the individual seeking release does not present an unacceptable or unreasonable risk of flight. In the present case, the court is satisfied that under strict conditions, petitioner does not represent an unacceptable or unreasonable risk of flight. As for the second criteria, that is the safety of the public, the court is also satisfied that petitioner does not represent a danger for the public and most likely will not commit an offense involving violence against third party. The court is of the opinion that the two previous convictions regarding driving a vehicle while impaired, for which he received unconditional discharge, do not warrant incarceration in their circumstances. Finally, the court is also of the opinion, although it is not contested by respondent, that an informed and reasonable public would not lose confidence in the administration of justice should petitioner be released under strict and severe conditions. Wherefore, the court grants Mr. Igor Dobievich Barchenko motion for judicial interim release under the following conditions. One, petitioner must keep the peace and be of good behavior. Two, he must conform to all orders of the court and be present before the court whenever required. Three, he must reside at Mrs. Yulia Katz's apartment located at 50 Rue des Sœurs Grises, apartment 611, Montreal, Quebec, and not to change address without the prior permission of the court. He must remain within the, number four, he must remain within the territorial limits of Quebec pending the outcome of the proceedings. Five, he must abstain from communicating indirectly or directly with any victim, witness, or other person identified in the record of the case. He must surrender his Canadian passport, his Russian passport, and his Israeli passport to the court, and undertake not to apply for any other pending the outcome of the proceedings. Now, Maître Jarry, for the seventh condition, I was about to order that they report to the RCMP, but I understand that the Sûreté du Québec is also involved, so which...
The RCMP will do.
RCMP. Yeah. Number seven is he will report in person to the RCMP at 4225 Dorchester East, Westmount, Quebec, on Wednesday of each week between 7 a.m. and 4 p.m. He will not be involved directly or indirectly in any telemarketing activity or mail, telephone, or internet sales or purchases. He undertakes not to engage in communication directly or indirectly with any person through the medium of internet, except if required to do so in relation to a bona fide employment. 10, petitioner shall furnish a judicial hypothèque in the amount of $25,000 on real estate he owns in guarantee of the respect of the undertakings. 11, he will furnish a cash deposit in the amount of $25,000 through any third party in guarantee of the respect of these undertakings. And 12, he will furnish a signed guarantee through a third party without deposit in the amount of $25,000.
On the last condition, my lord, is it possible to design Mr. Alexander Katz, because it's just easier for the clerk when there is a specific person designed and this person is willing, as you can testify, to design?
Any problems with that?
My only problem is that, according to the evidence, Mr. Katz is not worth $25,000.
I understand, yeah, but it's a signed undertaking of guarantees.
He's working, as you know.
So he will finish a signed guarantee through Mr. Alexander Katz? Without deposit. All right.
Thank you.
Madame la Greffière, je leur visage, j'ai des copies pour les avocats. Je fais la correction, vous auriez pu le faire vous-même, là, mais... Bon matin, mettre la pointe. Le dernier paragraphe, vous pouvez changer pour moi. Là.
OK.
Thank you. The matter was scheduled to come back tomorrow, pro forma.
Ah, I guess we could just cancel that date and... Yes, and postpone if we can have a date pro forma in a couple of weeks just to... have discussion and make up our minds on that.
Which date?
The 23rd of April?
No, I'm born here.
30th?
I'm in the BTB. The 7th?
Je pense que le gardien va vous parler. Ah bon, ok.
Is the 7th good, my major? You said Friday. And
probably.
You were looking Friday.
Yep.
Okay.
Vous avez ça, madame?
7 mai.
Vous avez ça, la date? 7 mai.
Merci.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
On donne le dossier, madame.
Annuler la date de demain.
Merci.
Il y avait ça aussi, les pièces. Ça va dans le même dossier.
des 20 années, en face. Il y en a deux, pour deux personnes qui sont détenues en Ontario. J'ai mis sur le dessus vos copies.
Pas besoin de signer des cartes.
Oui, s'il vous plaît. Oui. On a besoin de... Ça va à des endroits différents.
Allez-vous mettre mon nom en dessous ou...
Je peux le faire, oui.
Ça me surprendra qu'ils reconnaissent ma signature.
Je vais le faire, inquiétez-vous. Merci, M. le juge. Bonne belle journée.
Carrément.
Merci.
Alors, on reprend notre rôle.
M. Younes Tariq contre le directeur des poursuites criminelles et pénales.
Bonjour, M. le juge.
Bonjour.
C'est prêt.
Bonjour, M. le juge. Germain Capoune-Champagne pour M. Younes. M. Younes est présent. Vous vous levez, M. Younes? On est prêt également, M. le juge.
On parle encore de 45 minutes?
Oui. Ben, même probablement moins, M. le juge.
Très bien. On va suspendre pour le moment. On va être les premiers à procéder.
Pierre Jean-Baptiste contre la reine.
Bonjour, M. le juge. Pascal Destalère pour le juge.
Mm-hmm. Mettre la pointe de votre client est en détention. J'imagine qu'il est ici.
Oui.
Okay. Alors, on prévoit 45 minutes.
Oui. Ça va.
J'ai pris un sens du dossier, transcription. Une question intéressante. Alors, à tantôt.
Merci.
La reine contre Rémi Couture.
Bonjour, monsieur Juste.
Bonjour.
Finalement,
bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Couture, j'imagine.
Ouais. J'aimerais vous remettre un dossier à vous, le procureur, concernant ma cause.
Qu'est-ce que c'est au juste?
Pour le chef d'accusation que Mme la procureure veut m'accuser d'un certain truc, juste pour montrer aussi que...
Non, mais c'est parce que ce matin, là, ce qui est devant moi, il y a eu un premier jugement d'un premier juge qui a fait deux choses. Qui a ordonné la prolongation de la détention du matériel informatique,
oui.
Dépassé 3 mois, mais on se comprend que c'est dans les moins de 12 mois. Et deuxièmement, il a ordonné de vous donner une copie du même matériel informatique.
Oui.
Et le ministère public en appelle de cette décision-là en disant que le premier juge, corrigez-moi si j'ai tort, n'avait pas, n'aurait pas dû ordonner de vous remettre une copie. Alors, c'est juste ça que, dont je suis saisi.
Oui, tout à fait.
J'aimerais apporter un point. La raison pour laquelle on me saisit mes ordinateurs, c'est pour une raison particulière. Donc, dans le dossier, on montre ici des exemples des gens qui font les mêmes trucs que moi, qui sont légalement publiés, parce qu'on me retire mes ordinateurs sous prétexte que je fais de la photo obscène. Donc, dans ce dossier, on voit des trucs similaires qui sont publiés légalement. Ouais. Donc, c'est juste pour ça que ça vient okay, jouer
écoutez,
aussi.
Je vais regarder ça quand votre cause va être... Ouais, on va procéder, là, mais je voulais simplement vous souligner que moi, mon créneau ce matin, il est très, très limité. Je ne me prononce pas sur la légalité ou s'il y a des accusations qui vont être portées ou peu importe. Moi, tout simplement, j'ai une ordonnance. Est-ce que le juge avait le droit, en prolongeant l'ordonnance de détention, également de vous permettre d'avoir une copie de l'information que le ministère juge illégal. Alors, en apparence, il peut y avoir une contradiction, je vais aller là-dessus. Là. Okay. On se comprend?
Ouais.
Alors, vous allez taper dans une heure à peu près.
C'est bien bon.
Ça va?
Je pense que c'est prévu pour une heure, mais ce sera peut-être pas...
Écoutez, j'ai lu, vous avez remis à monsieur la jurisprudence que j'ai lue hier.
Oui, la copie aussi des transcriptions, des notes sténographiques.
Ah, c'est pas bien compliqué, là.
Je
est-ce que dans un contexte où le ministère public saisit du matériel qu'il juge illégal, est-ce que le juge doit remettre une copie de ce matériel-là illégal en attendant que des accusations soient déposées?
C'est exactement ça. C'est ça la question.
En posant la question... On trouve quasiment la réponse. Là,
jusqu'à preuve du contraire.
Très bien, je vous écoute.
N'est pas illégal.
Je vous écoute.
Merci.
Directeur des poursuites criminelles et pénales contre ZM.
Merci, Michel, pour le ministère public.
Bonjour, maître. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes monsieur?
Zach Masson.
D'accord. Alors, vous êtes prêt?
Oui.
On parle d'une heure.
Enfin, on va procéder avec l'autre dossier avec Maître Longueville, puis par la suite avec M. Masson.
En fait, votre seigneurie, je ne représente pas M. Masson, je représente M. Carriera.
Ah, c'est la cause qui suit.
Oui.
Pour ma part, là, j'aurais demandé à ce que M. Masson soit entendu avant. Sauf qu'en parlant avec ma consœur, là, elle m'indique que son argumentation risque d'être sensiblement la même. Cependant, étant donné que mon client paie un avocat, et acquitte des honoraires pour être représenté que M. Masson a refusé. J'aimerais qu'il soit entendu avant nous, là, pour ne pas qu'il bénéficie des avantages de mon client. Là,
que finalement, on va suivre l'ordre de...
Tout à fait, votre seigneurie. Il n'y a aucun problème. Je vais être disponible pour vous toute la
nuit. Très bien. Alors, à tantôt.
Je vous remercie.
Merci. Vous allez être rappelé tantôt.
Pour les deux dossiers, Maître Deschamps, passez pour les ZM.
Vous savez ça, madame?
Oui.
C'est beau. Alors... Monsieur Younes, Maître Archambault. Rappelez-moi votre nom, Maître. Caponi?
Germain Caponi-Champagne, monsieur.
Alors, je vous rappelle évidemment qu'au niveau d'un appel, le tribunal va intervenir s'il y a eu un jugement déraisonnable égard à la preuve, si la justice n'a pas été rendue ou s'il y a eu une erreur de droit déterminante. Alors, je vous écoute.
Bonjour, M. le juge. Si vous m'en donnez la permission, j'aimerais déposer une preuve documentaire à laquelle il est fait référence dans les notes sténographiques.
Ah, okay. Ce que je comprends du dossier, maître, là, puis corrigez-moi si j'ai mal saisi, c'est que, essentiellement, je pense que la juge White,
oui,
qui a refusé toute autre remise au motif que votre client, par son avocat, avait été informé de la date d'audition péremptoire. Je pense qu'actuellement, ça revient à ça. Hein?
Effectivement, monsieur le juge.
Okay.
Effectivement. On est en appel d'une cause CSR qui a procédé par défaut suite au rejet de la demande de remise. Donc, évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si la demande de remise a été rejetée à bon droit. Parce que, en attendant que vous arrivez à la conclusion que la demande de remise aurait dû être accordée, à ce moment-là, ça nous placerait dans une situation de audi alteram partem, c'est-à-dire que ça a procédé sans que mon client puisse prendre connaissance de la preuve de la poursuite et sans qu'il puisse se défendre. Donc, si on refait rapidement l'historique du dossier, monsieur le juge, dans un premier temps, mon client avait mandaté un avocat d'un autre bureau, maître Raymond, qui, suite à une erreur d'agenda, ne s'était pas présenté à la date de cours. Suite à ça, il y avait une rétractation de jugement qui avait été accordée d'ailleurs par la même honorable juge dont on appelle l'édition aujourd'hui, c'est-à-dire la juge White. Donc, c'est important parce que en rétractant ce jugement-là, en fait, c'est une reconnaissance par la Cour du Québec à l'effet que c'était hors du contrôle de M. Younès. S'il n'était pas présent le 17 novembre, c'était pour une bonne raison. Donc, à toute fin utile, c'est un rapport de dossier à zéro. Par la suite, on a une date d'audition pour le 16 juin 2009, qui est, de mon point de vue, la première date d'audition. Le 16 juin 2009, on a une remise au 21 octobre. Mais le 16 juin 2009, comme on peut le voir dans les notes scénographiques, mon client n'était pas présent. Donc, si mon client eût été présent le 16 juin...
Mais est-ce qu'il n'était pas représenté par avocat, ce jour-là?
Il était représenté par avocat, effectivement. Par une avocate de notre bureau. Si M. Younès eût été présent le 16 juin, lorsqu'on a proposé la date du 21 octobre, M. Younès se serait objecté en disant « Non, écoutez, le 21 octobre, je ne peux pas, je dois être absolument être en Chine, j'ai un voyage d'affaires important. »
On ne saura jamais. On ne saura jamais, parce qu'il n'était pas là.
Effectivement, sauf que si vous prenez connaissance des documents que je vous ai déposés...
Je pense que ce n'est pas mis en doute, ça, je pense. S'en allant en Chine, il y avait un voyage d'affaires, il devait être là.
Effectivement. Donc, on peut quand même, je pense, facilement présumer que s'il avait été présent au mois de juin, ça serait sans doute objecté. Enfin, à toute fin utile, le procès est remis au 21 octobre. Le 21 octobre, évidemment, environ peut-être comme... peut-être une semaine avant ou quelque chose comme ça, on a été en contact avec notre client puis il nous a envoyé toute la documentation pour confirmer que c'était vraiment impossible pour lui d'annuler son voyage en Chine. Donc, le 21 octobre, la juge White rejette la demande de remise en se basant essentiellement sur cinq points. Elle a essentiellement cinq motifs pour rejeter notre demande de remise. Et nous, notre point de vue, c'est que sur les cinq motifs, il y en a seulement un qui était pertinent jusqu'à un certain point et tous les autres points sur lesquels l'honorable juge s'est basé étaient des points non pertinents. Le point qui est pertinent jusqu'à un certain point, c'est le fait que ça avait été ciblé de façon péremptoire. Alors ça, évidemment, on ne peut pas reprocher à la juge White de tenir compte du fait que ça a été fixé péremptoire. Par contre, le fait qu'une date est fixée de façon péremptoire, ça ne dispose pas de la question. Ce n'est pas la seule question qu'un juge ou une juge doit se poser pour trancher sur une demande de remise. C'est un facteur parmi tant d'autres. Et un facteur important, c'est également, et dont elle n'a pas tenu compte, c'est le fait de se poser la question, savoir si c'est dilatoire ou pas. Alors, les autres motifs qu'elle a invoqués, quels sont-ils? Donc, d'une part, elle mentionne le fait qu'un jugement a été rendu par défaut le 17 novembre. Alors, à ce niveau-là, je vous réfère à la page 4 des notes sténographiques, à partir de la ligne 5. Donc, à partir de la ligne 5, on nous dit « Ce dossier-là a procédé par défaut le 17 novembre 2008, alors que monsieur avait été dûment avisé. Il n'était pas là, monsieur ne s'est pas présenté à la cour. » Donc, moi, je ne pense pas que c'est à bon droit que la juge tient compte de ça dans sa décision sur la demande de remise, parce que c'est elle-même qui a accordé la requête en rétractation du jugement. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas que c'est pertinent d'aller remonter jusqu'au fait qu'il y a eu une rétracte dans le passé, une requête en rétractation du jugement dans le passé pour rejeter la demande de remise. Ensuite, la juge affirme qu'il y avait déjà eu plusieurs remises dans le dossier. Et ça, là-dessus, je voudrais faire... Je vous réfère à la page 5 des notes sténographiques, ligne 14. On nous dit que ça avait été fixé péremptoirement le 16 juin 2009 par la juge Suzanne Bousquet, alors que la date a été rapportée aujourd'hui en présence de monsieur, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas de la première demande de remise. Donc, lorsque la juge dit ça, elle parle de la remise du 16 juin. Donc, la juge nous dit que le 16 juin, ça a déjà été remis, et que le 16 juin, ce n'était pas la première demande de remise. Mais selon ma compréhension de l'état du dossier, le 16 juin, c'était la première demande de remise. Donc, la juge commet une erreur en nous disant que ce n'était pas la première demande de remise, le 16 juin. Ensuite, mentionne le fait que le policier était présent. Alors ça, on en parle à la page 5, ligne 18. Et elle en parlait déjà à la page 3.
Ah oui, et je vous réfère en même temps à la page 3, ligne 19. Parce qu'à la page 3, ligne 19, on peut voir une remarque, c'est noté comme étant Maître Chester Milena, mais je pense que c'est clairement une erreur clinicale. Là. En fait, c'est Maître Archambault qui dit « Je n'ai pas désassigné les témoins parce que j'ai parlé à ma consœur et ça avait été fixé péremptoirement de consentement avec l'avocate qui était du même bureau. » Donc, l'absence du policier était due en fait au refus de l'intimer de désassigner son témoin. Évidemment, c'était son droit de ne pas désassigner son témoin et de contester notre demande de remise. Sauf que lorsque la juge se base sur la présence du policier pour rejeter notre demande de remise, alors qu'on a avisé la poursuite d'avance qu'on allait demander une remise, à ce moment-là, je ne pense pas que ce soit approprié de nous faire porter le fardeau de la présence du policier. Ensuite, on nous dit que la date du 21 octobre a été fixée en présence de l'appelant. On nous dit ça à la page 5, ligne 16. On nous dit que ça a été reporté et que la date a été reportée aujourd'hui en présence de monsieur. Donc, on nous dit en présence de monsieur, mais en fait, ce n'était pas en présence de monsieur. Monsieur était représenté le 16 juin, oui, mais il n'était pas personnellement présent. Donc, à ce moment-là, la juge commet encore une erreur en affirmant quelque chose qui est contraire à la preuve qui est devant elle et qui est contraire à l'état du dossier lorsqu'elle affirme que monsieur était présent le 21 octobre. Et on dit vraiment « en présence de monsieur ». On ne dit pas « alors que monsieur était représenté » ou « alors qu'il a reçu un avis » ou « alors qu'il a pu être informé par ses avocats ». Elle nous dit vraiment « en présence de monsieur ». Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où, sur 5 motifs dont elle a tenu compte, il y en a 4 qui sont absolument pas pertinents, monsieur le juge. Et de plus, si j'attire votre attention sur la page 3, ligne 10 et 11, c'est là qu'il fait référence à la preuve documentaire que je vous ai laissée aujourd'hui. Donc, on peut voir que ces preuves documentaires-là, on les avait déjà le 21 octobre, et la juge a décidé de ne pas en prendre connaissance. Elle n'affirme pas nécessairement que ce n'est pas une preuve admissible ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut comprendre, c'est simplement que, de toute façon, elle n'en aurait pas tenu compte, qu'elle ne jugeait pas ça pertinent. Donc, la juge, à ce moment-là, se base sur 4 facteurs sur 5 qui, d'après nous, ne sont pas pertinents, et le facteur le plus pertinent, elle n'en a pas tenu compte. Parce que la question principale à se poser sur une demande de remise, évidemment, c'est d'abord de savoir si l'avocat est en contact avec les personnes qui sont absentes et si ces personnes-là ont l'intention de se présenter à la prochaine date. Et ensuite de ça, l'autre question qu'un juge doit se poser, c'est de savoir si c'est dilatoire. Mais là, à ce moment-là, la première chose à faire pour évaluer si c'est dilatoire ou pas, ça aurait été d'examiner les preuves qu'on voulait lui déposer, à savoir les réservations des billets d'avion, les réservations des hôtels, ainsi qu'une lettre de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Donc, le facteur le plus pertinent, la juge ne l'examine même pas. Donc, je vais vous soumettre respectueusement, monsieur le juge, que ce n'est pas à bon droit que la demande de remise a été refusée. La demande de remise aurait dû être accordée. Et à ce moment-là, vous devez nous accorder notre appel et on va vous demander respectueusement de retourner le dossier en première instance. Monsieur le juge, vous êtes tout respectueusement soumis.
Évidemment, l'appel est sur la requête en rétractation qui a été rejetée.
Non. C'est sur la demande de remise.
OK. La requête en rétractation a été rejetée.
Effectivement, par la suite, au départ, vous parlez de la deuxième requête en rétractation, celle qui a été... Oui. Effectivement, la deuxième requête en rétractation a été rejetée par le juge Fortin. C'était une mauvaise procédure qui avait été faite de notre part. On n'avait pas pris le bon moyen pour contester le jugement de la juge White. Et par la suite, lorsqu'on a examiné le dossier, dans un premier temps, on pensait d'aller probablement en appel de la décision du juge Fortin de rejeter notre requête en rétractation du jugement. C'était ça, évidemment, notre première idée. Ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'on était à l'intérieur de notre délai d'appel à ce moment-là, contrairement à l'autre pour lequel on était hors délai. Sauf que voulez-vous, la décision du juge Fortin de rejeter notre requête en rétractation du jugement était parfaitement fondée, puisqu'en fait, on lui soumettait les mêmes éléments que la juge White avait à sa disposition. Donc, le juge Fortin a jugé que c'était comme la placer en appel d'un juge de la première instance. Et il a jugé qu'il n'y avait pas de juridiction pour faire ça. Et en évaluant le dossier, on s'est dit qu'il y avait raison à ce niveau-là, alors que la décision de la juge White, c'est cette décision-là qui comportait des erreurs qui donnent ouverture à un appel. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si dans un dossier, on était à l'intérieur du délai, dans l'autre dossier, on était hors délai, on a quand même été en appel
de la décision où on était hors délai, parce que c'est sur cette décision-là qu'on avait des motifs pertinents. Et d'ailleurs, notre enquête en extension de délai a été accordée. Donc, à ce moment-là, ça nous place dans cette situation-là où on est en appel, non pas de la rétractation de jugement, mais on est en appel de la décision sur le fond qui a été rendue par défaut en l'absence du défendeur, alors que selon nous, la demande de remise aurait dû être accordée.
Merci, maître.
Monsieur le juge, d'une part, je vous soumets qu'il faut garder le jugement de la juge White comme un tout. Et pour les motifs que je vous énoncerai, là, je vous soumets que le jugement était tout à fait bien fondé. D'une part, la demande de remise du bureau de Benamar a été faxée à mon attention le 15 octobre 2010, à laquelle j'ai répondu. C'est dans le dossier de première instance, mais je vais quand même le déposer. Ça a été fait manuscritement. J'ai répondu que je ne pouvais pas y consentir parce que le dossier était fixé de façon péremptoire. Alors, dès le 15 octobre, le bureau de mon confrère était au courant que la remise serait contestée. D'ailleurs, le 16 octobre, la même avocate m'a répondu que elle ferait ses représentations pour demander une remise à la juge White, puisque le client est en chaîne, et accepterait le jugement s'il y a lieu. Alors ça, c'est la lettre du 16 octobre, toujours du même bureau. Alors, quand on se présente le 21 octobre devant la juge White, là, c'est pas une surprise pour personne que la remise va être contestée, que le policier ne sera pas désassigné. Mon confrère vous dit que les éléments pris en compte par le juge, la juge White, lorsqu'elle s'est penchée sur la demande de remise, étaient non fondés. Je soumets d'une part, elle fait un historique du dossier. On parle du début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Il y a eu une première rétractation de jugement. Je vous soumets que de faire un historique du dossier, c'est tout à fait pertinent. Il n'y avait aucun problème de la juge White à procéder de la sorte à voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-ci depuis le début. Maintenant, mon confrère dit que la juge a affirmé qu'il y a déjà eu plusieurs remises dans le dossier, alors qu'il y en avait eu une seule. En fait, on était en présence le 21 octobre, on est à la deuxième remise. Et quand on regarde le paragraphe à la page 5 des notes du 21 octobre, il faut le lire attentivement, là, il y a un point-virgule. Compte tenu du fait que ça a été fixé péremptoire le 16 juin 2009 par le juge Suzanne Bousquet et que la date est reportée aujourd'hui en présence de monsieur, point-virgule. Compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas de la première demande de remise et compte tenu du fait que le policier est présent dans la salle, la demande de remise est refusée. Alors, de pas...
Le fait qu'elle se trompe parce que monsieur n'était pas présent, effectivement.
Sauf que l'avocate était présent.
J'ai compris ça, là.
Maître Choquette était présent. Et, monsieur juge Astegard, quand on lit dans les notes, quand on lit la transcription de la rétractation de jugement, monsieur vient clairement dire, aux pages 6, qu'il était au courant de la date.
Il était confus au niveau des dates.
Il était confus. Sauf qu'à la page 6, on lui demande, ligne 15, if we're talking about the last date, yes, the last date being, puis il dit, I was aware. Et plus loin, Maître Apollon, toujours du bureau de Benamar, à la page 7, il demande, so you were made aware that there was a case on the 21st of October, it's just that you were not able to come. Et sa réponse, yes. Alors, il était au courant. Il était au courant que le 21 octobre était son procès. Et mon confrère vous dit qu'on peut présumer que si monsieur avait été là, le défendeur avait été là le 16 juin, il aurait dit non, fixez pas ça, cette dette-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu la demande de remise le 15 octobre? On n'a pas eu, peu de temps après que ça a été fixé, on a eu la demande de remise le 15 octobre. Alors, je vous souviens, M. le juge, le jugement de la juge White est légitime et fondé. Et je vous rappelle que le vieil arrêt d'Arville, qui est toujours appliqué abondamment, nous énonce le principe que l'ajournement est un exercice de discrétion judiciaire et que si la discrétion judiciaire n'est pas exercée de façon judiciaire, bon, elle peut être visée par une cour d'appel. Mais si ce n'est pas le cas, quelle que soit l'opinion de la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'intervention. Et je vous soumets respectueusement, c'est le cas qui est devant vous. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans le jugement de la juge White pour les motifs que je vous ai énoncés.
Oui.
Brièvement.
Très brièvement, oui.
Donc, Au niveau du fax, là où on disait qu'on accepterait le jugement s'il y a lieu, je pense que c'est simplement une formulation. Je ne pense pas qu'on puisse interpréter ça comme une renonciation à faire appel d'une décision, parce qu'au moment où on dit ça, on ne connaît même pas d'avance quels seront les motifs de la juge White. Donc, on ne peut pas savoir si on va vouloir en appeler ou pas. C'est simplement une formule de politesse. Là,
c'est au mois d'octobre, ça.
Oui. C'est vraiment une formule de politesse, à savoir, bon, d'accord, on voit que vous allez contester notre demande de remise, on va faire chacun nos représentations et le juge décidera. Moi, c'est simplement la façon dont je le comprends. C'est vrai qu'on n'a pas été surpris que la demande de remise soit contestée. L'avocate qu'on a envoyée ce matin-là était préparée en fonction d'une demande de remise qui serait contestée, sauf que je ne suis pas certain que ça change quelque chose au niveau du compte du dossier, M. le juge. Ensuite, on nous parle des points et virgules à la page 5. Quand même, on peut quand même voir que toutes les phrases commencent par « compte tenu ». Donc, c'est vraiment là-dessus qu'elle se base pour rejeter la demande de remise. Chacune de ces phrases commence par « compte tenu ». Ensuite, le fait que mon client connaissait la date du 21 octobre, en fait, ça me semble une évidence qu'il connaissait la date, puisqu'il était représenté. Il y avait quelqu'un qui était sur place pour le représenter. Et qui voulait même déposer des preuves de son voyage en Chine. Donc, forcément, il était au courant. Sauf que, en étant au courant de la date et en voyant qu'il ne pouvait pas y aller, il a quand même été diligent puis il a pris des mesures pour être représenté et puis que son avocat aille toutes les preuves en main pour expliquer au juge les raisons de son absence. Donc, à ce niveau-là, il a été parfaitement diligent. Le fait qu'on fait la demande de remise le 15 octobre pour le 21, je pense que c'est quand même relativement diligent, M. le juge. On est quand même 6 jours d'avance, là. Donc, ça donne amplement le temps à la poursuite de prendre position, décider s'ils vont contester ou pas notre demande de remise et décider s'ils vont désassigner ou pas leur témoin. Donc, le 15 pour le 21, ça me semble parfaitement diligent. Maintenant, quant aux critères d'intervention, M. le juge, à ce moment-là, moi, je vais vous soumettre que nous, ce qu'on soulève, c'est que le juge se base sur des éléments qui sont contraires à la preuve. La juge affirme des choses dans son jugement qui sont contraires à la preuve et qui sont contraires à l'état du dossier qui est devant elle. Donc, ça me semble des motifs assez sérieux pour m'écouter une intervention de la Cour supérieure, M. le juge. Je vous soumets tout respectueusement.
Merci, maître. Alors, écoutez, voici ma décision. Le tribunal est saisi d'un appel, une décision de l'arrêt juge White, en première instance, qui a refusé une demande de remise d'une audition qui était prévue pour le 21 octobre 2009 et qui avait été fixé de façon péremptoire. Essentiellement, l'avocat de M. Tariq Younes reproche à la première juge d'avoir illégalement refusé la demande de remise au motif que dans son jugement, la juge se trompe dans la mesure où lorsque la date a été fixée au mois de juin 2009, M. Younes n'était pas présent. Il suggère également que la juge s'est trompée aussi en faisant l'historique du dossier et en référant aux nombreuses demandes de remise. En ce qui concerne le ministère public, il soutient que, essentiellement, il est vrai que M. Younes n'était pas présent lorsque la date d'audition a été fixée au mois de juin, mais son avocat ou avocate était présente à l'époque et que cette erreur-là n'est pas déterminante dans le présent dossier. L'avocat du ministère public ajoute que c'était à bon droit que la juge White a fait un historique du dossier, même s'il y a peut-être certaines imprécisions au niveau des demandes de remise comme telles. Mais dans l'essentiel, effectivement, le jugement ne souffrait pas d'erreur, puisque dès le mois de juin 2009, Tariq Younes savait que l'audition devait avoir lieu de façon péremptoire au mois d'octobre, et ce n'est que quelques semaines, peut-être 2 semaines avant, vers la mi-octobre, que pour la première fois, il a mentionné par le biais de son avocat qu'il demanderait la remise au motif qu'il serait en voyage d'affaires au mois d'octobre 2009. Le tribunal tient à rappeler que la Cour supérieure n'interviendra en appel que dans 3 situations, soit lorsque le jugement attaqué est déraisonnable eu égard à la preuve, si justice n'a pas été rendue, ou si une erreur de droit a été commise, encore que cette erreur doit être déterminante sur le jugement rendu. Le tribunal est d'avis, compte tenu de la nature du jugement de la juge White, que cette dernière a exercé sa discrétion de façon judiciaire, qu'il n'y a pas d'erreur manifeste dans ce jugement, que la date d'audition du mois d'octobre avait été fixée de façon péremptoire,
que M. Younes le savait même s'il n'était pas présent, puisqu'il était représenté par avocat dès le mois de juin 2009. Et donc, à la lumière de cette situation-là, la juge a décidé qu'il n'y avait pas matière à remise et qu'il fallait donc procéder avec le dossier. En circonstance, le tribunal rejette l'avis d'appel.
Merci,
M. le juge. Merci. Bonne fin de journée à vous deux. Est-ce que vous voulez revoir vos...
Non, ça va.
Dans l'autre.
Monsieur Pierre Jean-Baptiste contre la Reine.
Alors, on va appeler Maître Lapointe, votre collègue. Oui. Et il y a un détenu, je pense.
On demande Maître Lapointe, salle 411.
Il y a un détenu également, hein, monsieur
oui.
Jean.
Monsieur le juge.
Bonjour, Maître Lapointe.
Bon, alors, nous avons déposé en une semaine les transcriptions des événements du 4 décembre 2009. Mm-hmm. Alors, je vais commencer par ça. Ceci vous a signalé, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, que vous l'avez eu. Mm-hmm. Mais je pense que c'est en présentant les faits que je peux vous les joindre à une certaine argumentation. Alors, les faits qui, je pense, ne sont pas contestés parce qu'ils apparaissent A, à sa face même des du 4 décembre, et B, dans le jugement qu'a rendu le 1er mars l'honorable juge Marquis. Jugement qui, à mon avis, a concrétisé ma perception de ce qui avait pu se présenter auparavant et qui a donné lieu à la requête devant vous. Bon, alors, ce qui s'est produit, c'est que M. M. Jean-Baptiste Pierre a enregistré un plaidoyer de culpabilité à un certain moment donné, au mois de juin 2009. Alors, lorsque ce plaidoyer de culpabilité a été enregistré, alors que monsieur était détenu parce qu'il n'avait pas été admissible à cautionnement, alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire, monsieur est considéré, sûrement sur le second motif, comme étant une personne qui, si elle était remise en liberté, pouvait commettre une infraction. Alors, on avait décidé, malgré la présomption d'innocence, de le détenir. Alors, il enregistre un plaidoyer de culpabilité et il est libéré à ce moment-là, ce qui... Je pense que le juge le mentionne à un moment donné, n'eût été de la suggestion de la commune, de la couronne, je ne l'aurais jamais fait. Bon, alors...
Le motif soi-disant humanitaire, je pense que monsieur...
Motif soi-disant humanitaire qui n'apparaissent pas à ce moment-là, mais qui vont apparaître dans la requête de monsieur plus tard. Bon, alors, ce qui se produit, c'est que les représentations sur sentence sont reportées au mois de novembre et que la sentence devrait être reportée en janvier ou en février. On voit bien que on passe par-dessus Noël. Enfin, c'est de la cuisine, là, mais c'est la vie. Et monsieur se présente à mes bureaux, fait appel à nos services parce qu'il soumet qu'il a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour deux raisons qui apparaissent à la requête qu'il va faire, mais dont nous n'avons pas à prendre en considération parce qu'on n'est pas à ce stage-là. Mais ces deux motifs étaient... J'ai un enfant de 5 ans qui est en les mains d'un inconnu qui était le nouveau conjoint de mon ancienne femme. Elle-même a été incarcérée. Je n'ai pas de nouvelles. Je voulais voir mon enfant. J'avais besoin de sortir. Bref, j'ai plaidé coupable puisque c'était le centre de mes considérations. Deuxième élément, j'avais un co-accusé qui était également remis en liberté si je plaidais coupable. Et sous les pressions de ces deux choses-là, j'ai enregistré un plaidoyer de culpabilité. Alors, je regarde le dossier et je lui dis, après, parce que ça a pris quand même un certain temps, qu'on pouvait présenter une requête. Malheureusement, à ce moment-là, comme vous le savez, j'étais devant jury et j'ai donc demandé à quelqu'un de mon bureau d'aller à la journée où c'était fixé pour dire que monsieur nous avait demandé de faire cette requête-là et que dans les circonstances, nous avisions que nous étions pour l'affaire. Bon. Alors, le juge, à ce moment-là, a dit « Je voudrais la requête pour vendredi prochain. » Moi, je suis toujours devant jury, donc c'était mon associé, Maître Julie Lamoureux, qui, à ce moment-là, a présenté la requête qui était pour le vendredi suivant.
Est-ce que monsieur était toujours détenu à ce moment-là?
Non, il n'était pas détenu à ce moment-là.
Depuis juin, hein?
Depuis juin, il n'était pas détenu. Okay. Monsieur n'a pas eu de bruit de condition, pas rien, zéro. Bon, alors, à ce moment-là, arrive le vendredi. Ça avait été fixé un vendredi parce qu'à ce moment-là, votre seigneurie, les vendredis, on ne procédait pas. Mais, par contre, c'était le vendredi qui précédait le lundi où je devais présenter une défense. Et comme je le mentionne, je n'avais pas une minute à consacrer à autre chose que mon dossier. Alors, je me présente donc le vendredi et je déclare au juge, écoutez, je n'ai pas vu monsieur. Monsieur a été par l'intermédiaire de Maître Lamoureux. Maître Lamoureux est à l'hôpital avec ses deux enfants parce qu'elle avait un rendez-vous puis des raisons médicales. Alors, je viens donc vous dire que nous avons présenté la requête, mais je ne suis pas en mesure de la plaider raisonnablement. À ce moment-là, on me mentionne que la Couronne avait, la semaine au préalable, avisé qu'elle voudrait demander une annulation du cautionnement de monsieur. Mais j'admets, et je l'ai déclaré la dernière fois, que Maître Lamoureux a été consciente de ça, que monsieur a peut-être compris ou pas compris, mais je signale que de dire nous allons présenter une requête pour annulation du cautionnement, et d'en présenter une, c'est deux choses. De dire « je vais aller en appel » puis présenter un avis d'appel, c'est deux choses. À un moment donné, il y a des règles relativement à la procédure et celle-ci, à mon avis, aurait dû être plus formelle que ça. Alors, il n'y a pas eu de requête écrite et il n'y a pas eu d'avis écrit, mais il y a eu un avis verbal qui a été donné une semaine au préalable que moi, personnellement, je n'ai pas eu, je le mentionne, quand je suis devant M. le juge Marquis. Alors, à ce moment-là, je demande au juge Marquis de reporter la question de la requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité, chose qui va être faite, mais il me dit il y a la requête pour... On me dit qu'il y a une requête pour détention. Votre confrère l'a présenté vendredi. Et là, je demande également, étant donné que je n'ai pas parlé à monsieur et qu'il y a certains faits que je ne connais pas, puis ce n'est pas les motifs sur lesquels se base cette fameuse requête-là, je fais une demande de remise également. Alors, et là, à ce moment-là, il se produit un certain nombre de choses, dont le juge dit qu'il va l'entendre aujourd'hui, mon confrère va plaider. Je me relève pour dire, écoutez, je suis pas en mesure de vous la plaider. Bref, je fais une demande de remise. Et on me dit à 2h30 cet après-midi, et je déclare à ce moment-là, je suis chez le médecin à 3h30. Et on peut trouver tout ceci, là, votre seigneurie. J'ai peut-être parlé un peu vite. Alors, autour de la page 25, 26, 27 mm-hmm. de cette journée-là. Alors, la Cour, à la page 24, dit « La requête, nous l'avons devant nous. Elle nous a été annoncée vendredi dernier. » Alors, moi, je mentionne quelle est ma situation. Le juge, à la ligne, à la page 25, à le dernier paragraphe, « Moi, je vous le dis, j'ai l'intention d'ordonner l'incarcération de monsieur entre-temps. Alors, trouvez une date. » Alors, la décision, à mon avis, est déjà prise. C'est une requête pour la détention de monsieur, et il me dit « Je vais donner l'incarcération entre-temps. » Une date pour la requête, page 26. La Cour dit pour requête pour plaidoyer de culpabilité. Est-ce que ça convient le 18 ou le 17 décembre que je suggère? La Cour n'est pas là. Est-ce que je peux parler à mon client? Et à la page 27, et là je pense que à la page 27, il y a des éléments qui sont particulièrement troublants. Le juge dit « Je vais vous entendre sur la remise en liberté, mais pour le moment, j'ordonne l'incarcération de M. Jean-Baptiste. » Alors, je trouve que dans cette même phrase, il y a une chose et son contraire qui est dite. Alors, et j'avais juste dit avant, mais monsieur le juge, vous rendez une décision sur la requête, là, et sa réponse était « Je vais vous entendre sur la remise en liberté, mais pour le moment, j'ordonne l'incarcération de monsieur Jean-Baptiste. » Alors, le juge continue « Je vous entendrai sur sa remise en liberté éventuellement, mais pour le moment, j'estime que j'ai des raisons de croire que monsieur ne se représentera pas. » Alors, pourquoi le juge mentionne-t-il ceci? Et monsieur s'est présenté au mois de novembre et s'est représenté au mois de décembre, la semaine suivante. Mon confrère a plaidé qu'en 2002, monsieur avait été défaut mandat et relevé de son défaut mandat. C'est la seule chose que je vois, là. Mais c'est en 2002, on est en 2010. Et à part ça, je vois pas pourquoi monsieur ne se présenterait pas. Maintenant, le juge a mentionné qu'il y avait la requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité, mais ce n'est que véritablement le 1er mars, lorsque le juge a rendu sa décision sur cette requête-là, décision, là, votre seigneurie, dont nous ne sommes pas en appel devant vous, là, mais je pense que je peux vous dire que c'est déposé à cour d'appel. Paragraphe 26. Le juge lui-même mentionne, le 11 décembre, le nouvel avocat de l'accusé n'était pas prêt à plaider la requête car il procédait devant jury. Étant donné ces circonstances, notamment les motifs énoncés par l'accusé dans sa requête pour retrait de plaidoyer, j'ai décidé, suite à la demande de la couronne, d'incarcérer l'accusé. Alors, le juge mentionne textuellement, et je pense que c'est cet élément-là là, qui m'a le plus surpris dans le jugement, que c'est à cause des motifs énoncés dans la requête pour retrait de plaidoyer. Alors, c'est parce que monsieur a revendiqué un droit, celui de présenter une requête, que le juge a décidé d'incarcérer monsieur. Non seulement la présentation d'un droit ne donne-t-elle pas recours à réagir de cette façon-là en enlevant le cautionnement de monsieur, mais je pense qu'à ce moment-là, l'attitude du juge démontre ce que je vous mentionne être de la partialité parce qu'il prend une décision avant qu'elle soit plaidée et que dans des circonstances où on demande une remise pour pouvoir être un peu plus près pour les deux requêtes et que le juge la refuse et dit « Je vous entendrai sur la requête pour mise en liberté, mais en attendant, je le détiens. » Alors, « Je vous entendrai sur sa liberté, mais en attendant, je l'enlève, sa liberté. » Alors, je vous soumets respectueusement qu'on ne peut pas avoir plus « J'ai pris ma décision » et quelles que soient les choses que vous me direz et quelle que soit la remise, ma décision est déjà prise. Bon. Je pèle un peu sur des œufs pour vous dire que dans ce jugement-là que vous avez de déposer, j'ai été, le jugement du 1er mars, votre seigneurie, j'ai été surpris par l'utilisation du « je ». Je ne sais pas si c'est des nouvelles façons de rendre des jugements, mais je trouve que le juge, dans ce dossier-là, a pris la chose de façon très personnelle. Alors, si on commence, le deuxième paragraphe du jugement du 1er mars, le 8 juin, alors que je suis sur le point de débuter une enquête, on continue, on me demande de retarder le début de l'enquête, j'accepte évidemment l'offre des avocats. Paragraphe 4, les parties m'informent, on m'informe. Paragraphe 4, cinquième ligne, j'ai donc compris enfin, en fait, tout le monde a compris que le procureur de la poursuite, etc. À 11h26, paragraphe 6, à 11h26, je me suis enquis auprès de lui s'il plaidait coupable, ligne suivante, et je l'ai également informé. Et c'est un peu... Ça continue un peu. Il semblerait, à ma lecture, que le juge a pris personnellement cette question du retrait de plaidoyer de culpabilité. Maintenant, Votre Seigneurie, que l'on dise qu'à sa face même, les motifs sont puérils, je trouve qu'à sa face même, ce n'était pas à ce point provocant et puéril la requête. D'abord, parce que le juge dit lui-même que s'il n'y avait pas eu la demande de la couronne, il ne l'aurait jamais remis en liberté. Parce que c'est évident que c'est parce qu'il a plaidé coupable qu'on le remet en liberté. C'est parce qu'il a plaidé coupable, et l'autre aussi, que M. Lambert est remis en liberté. Et comme par hasard, alors que M. fait cette requête-là, on demande de lui retirer la liberté, ce qui m'apparaît être une contrepartie qui était celle de son plaidoyer de culpabilité. Alors, que monsieur vienne dire que, quand le juge mentionne à un moment donné, je lui ai demandé s'il y avait eu des promesses, eh bien, le juge même s'en rend compte parce qu'il demande lors du plaidoyer, vous savez, vous avez un casier judiciaire, il va avoir de la détention, puis tout le monde rassure que oui, il va avoir de la détention, puis ça va être du fédéral. Alors, tout le monde s'entend pour dire que ça va être de la détention, ça va être du fédéral, et on le remet en liberté. Alors, c'est évident que il y a une entente et que cette entente-là repose là-dessus. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas plaider ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que le juge, lors du 4, a commis des impairs de partialité qui apparaissent le 1er mars dans son jugement et qui apparaissent également à sa face même dans la... dans la copie des transcriptions du 4 décembre. Maintenant, ce n'est pas juste une question de fait également. C'est une question également de juridiction. C'est l'article 523 qui accorde juridiction relativement aux modifications des conditions d'une ordonnance de liberté. Et à l'article 523, paragraphe B, 2i, que mon confrère d'ailleurs mentionne et dans lequel il dit « Vous avez juridiction, monsieur le juge », le paragraphe 523b2i mentionne bien clairement « Lorsque prévenu est déclaré... » Bon, alors, je commence à A, ben 523, c'est la remise en liberté d'une personne qui est la situation d'une personne qui est sur une citation, une sommation, une promesse, que celle-ci se prolonge jusqu'à la fin de la cause. Et la promesse, et on termine 523.1, là, où la promesse a été remise, où l'engagement a été contracté. A. Lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d'une ordonnance d'un juge rendu en vertu du paragraphe 522, tant que son procès n'a pas pris fin. Alors, l'accusé, s'il est remis en liberté, il est remis en liberté aux mêmes conditions tant que son procès n'a pas pris fin. Dans tout autre cas, tant que, ça c'est B, petit i, son procès n'a pas pris fin, et 2i, lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l'article 673 n'a pas été prononcée, à moins qu'au moment où sa culpabilité est déterminée, et c'est bien là le mot, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine. Alors, le juge ne peut changer la liberté de l'accusé à un autre moment qu'à ce moment-là. Évidemment, d'autres juges, selon les dispositions de l'article 515, dans d'autres moments, pourraient le faire, ou même à défaut, s'il y avait un bris de condition, s'il y avait une nouvelle infraction, si on présentait un fait nouveau. Mais entre le mois de juin 2009 et le mois de novembre-décembre 2010, il n'y a aucun fait nouveau qui permettrait de changer cette situation-là. Et vous avez la cause, votre seigneurie, de Moisan. Je vais donner à ma consœur, je vais vous en donner une copie. C'est une décision du juge Grenier de Québec, votre seigneurie, sur une situation que je qualifierais de ce que j'ai trouvé de plus analogue. Alors, c'est un individu qui a enregistré un plaidoyer de culpabilité et qui est à ce moment-là laissé en liberté par le juge du procès. Le juge fixe une autre date pour les représentations sur sentence. Il y a un imbroglio parce que c'est une salle à volume que l'avocat est arrivé en retard pour des raisons de famille. Et alors, le juge a décidé d'incarcérer la personne, je dirais, là, sans motif. Et à la page 6, le juge, à la page 5 également, à partir du paragraphe 27. À ce stade, pour annuler une ordonnance de remise en liberté, le juge doit être saisi d'une demande exposant les motifs justificatifs, comme l'a prévu le législateur à l'article 523.2. Et là, on vous lit 523 que je vous ai lu tout à l'heure. Ces motifs doivent nécessairement référer à l'article 515.10a, b ou c, soit ce que l'on connaît tous, là, assurer sa présence, la protection de la sécurité ou une autre cause. Bon. Alors, paragraphe 29, il existe une seule exception qui est prévue à l'article 523. Lorsqu'un prévenu a été mis en liberté, l'engagement qu'il a contracté demeure en vigueur tant que son procès n'a pas pris fin. Lorsque le prévenu est déclaré coupable, à son procès, sa peine au sens de l'article 673 n'a pas été prononcée. À moins qu'au moment où la culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne que le prévenu soit mis sous garde. Or, paragraphe 30, Monsieur le juge Mercier n'était pas à l'étape de la déclaration de culpabilité puisque l'accusé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité le 6 décembre 1999. Le juge n'avait donc aucune juridiction pour détenir le requérant, à moins que la poursuite ne se conforme aux dispositions de l'article 524-2A. En excédant sa compétence, le juge a perdu juridiction. Alors, et le juge émet la requête en prohibition telle que je vous l'ai présentée. Moi-même. Évidemment, le juge avait ajouté au paragraphe 34, j'ai une sentence dans mon esprit qui est assez arrêtée, j'ai bien l'intention de la rendre. Alors, le tribunal a également conclu que quant aux commentaires du juge, ils sont clairement de nature à susciter une crainte de partialité et constituent un excès de juridiction. Alors, évidemment, votre seigneurie, vous avez les décisions de la Cour suprême en 1997, trois rapports de la Cour suprême, R contre S, en parenthèse, RD, sur la question de la partialité. Ça n'a pas de rapport avec notre cause dans les faits, sauf en ce qui concerne le traité de la notion de partialité et de dire que c'est un élément où il faut être pointilleux. Le respect des plus hautes normes d'impartialité, voyez, pouvons-nous lire. Les juges doivent être particulièrement sensibles à la nécessité non seulement d'être équitables, mais de paraître aux yeux de tous les observateurs raisonnables, équitables envers les Canadiens. Là, c'est une question peut-être que de toute race, religion, nationalité ou origine. Alors, si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou dénotent réellement sa partialité, celui-ci excède sa compétence. Alors, c'est un des motifs régissant les brefs de prohibition et évidemment l'habeas corpus qui va ancillairement. Alors, le tribunal ici a bien mentionné, c'est pas les articles, enfin, il n'y a pas de fait nouveau à l'article 515. 523 est un excès de juridiction. Je vous signale que au niveau procédural, l'équité procédurale est une autre forme où il peut y avoir l'excès de juridiction. Je pourrais vous mentionner, mais la procédure... Alors, l'équité procédurale est, par exemple, que monsieur aurait dû, c'est-à-dire qu'on aurait dû faire une requête en bonne et due forme. Et sans compter là, qu'il n'y a pas d'excès de juridiction, qu'il y a un excès de juridiction de par 523, il y a quand même, dans les faits, une façon de se comporter qui démontre un parti pris. Le juge qui insiste pour entendre immédiatement la requête, et alors qu'il n'y a pas eu de préavis à l'avocat qui est là, mais qu'il n'y a pas eu un véritable préavis écrit. Il y en a eu un verbal à mettre l'amoureux. Deuxièmement, lorsque on fait une demande de remise, et c'est aussi un des éléments qui est souvent un motif qui lui permet de déterminer la partialité, le cas de refus d'ajournement. Alors, à la page 984 du traité général de preuve pénale de M. le général... 984, votre seigneurie, on mentionne au bas de la page de 983, on est au paragraphe 2444 et 2445, la contravention aux règles de justice naturel. Alors, à 2.44, on dit priver un accusé de son droit à une défense pleine et entière, ne pas agir avec impartialité. À 2.45, in fine. En pratique, toutefois, les cas les plus fréquents de violation du droit à une défense pleine et entière se présentent dans les cas de refus d'ajournement. Ici, j'ai fait une demande en disant nous pouvons étudier calmement ce dossier-là. Le juge a voulu que ça soit entendu immédiatement. Il me donne jusqu'à 2h30. Je lui demande jusqu'à 3h30 pour revenir de chez le docteur. Et tout ça, là, votre seigneurie, se part en, je vous dirais, moins de 30 secondes. Alors, je suis à la page 25. Alors, je vais remettre le tout à 2h30. Je ne suis pas là, votre seigneurie, je suis chez mon docteur. Mettre la pointe. Est-ce que je peux venir à 3h30? Je ne vais pas bien, effectivement. Votre Seigneurie, je ne veux pas compter mes problèmes. Moi, je vous le dis, j'ai l'intention d'ordonner l'incarcération de monsieur entre-temps. C'est quand même là une décision prise avant qu'on l'ait plaidé. Une date pour la requête. Pour la requête pour retraite plaidoyer, est-ce que ça convient le 18 ou le 17? Je ne suis pas là. Vous êtes là quand? En janvier. Ça, c'est la Cour qui parle, parce que la Cour n'est pas disponible. Est-ce que je peux parler à mon client? Je ne lui ai pas parlé depuis. Bien, M. Jean-Baptiste, vous allez prendre place dans le box immédiatement. Alors, monsieur est dans la salle, il est assis sur une chaise, et on le fait rentrer. Alors, et l'accusé dans la présente cause. Monsieur le juge, l'affaire de 2002, c'est pas vrai. Ça, c'est l'accusé qui parle en rentrant dans la boîte des détenus. J'ai jamais, je viens tout le temps en cours, je peux pas, je viens tout le temps en cours, je comprends pas, monsieur le juge. Et la Cour dit, alors l'accusé a plaidé coupable devant moi. Monsieur le juge, vous rendez une décision sur la requête, là. Je vais vous entendre sur la remise en liberté, mais pour le moment, j'ordonne l'incarcération de monsieur Jean-Baptiste. Je peux pas avoir plus inconciliable que ça, votre seigneurie. Bon. Alors, c'est également les cas de demande de refus d'ajournement quand le refus d'exercer de façon discrétionnaire son autorité et d'avoir pris telle décision.
Alors, ce que vous me plaidez, M. Lapointe, essentiellement pour justifier l'habeas corpus, c'est qu'il n'y a pas d'autre recours utile.
Votre Seigneurie, pour ce qu'il n'y a pas d'autre recours utile, non, la sentence va être plaidée lundi, selon le dossier. Votre Seigneurie, le juge a pris personnellement que monsieur, après avoir été remis en liberté, demande ce retrait-là, tellement c'est à l'entente, on lui retire tout de suite son cautionnement. Bon, au fond, c'est déjà la cour d'appel, votre Seigneurie, sur ça. Mais là, on n'attend pas que la sentence soit imposée. Il y a visiblement ici une attitude qui n'est pas impartiale. Il y a visiblement un excès de compétence. Monsieur ne devrait pas être détenu, d'où l'habeas corpus. Mais également, votre Seigneurie, si on laisse le magistrat rendre sentence, que ce soit le 23 ou une date ultérieure, je veux dire, il y a matière à avoir une crainte raisonnable.
C'est pas la partialité, je vous comprends là-dessus, je vous suis là-dessus. Mais sur la question de la mise en liberté, si effectivement il y avait ouverture à une requête pour mise en liberté, par exemple, est-ce que sur ce volet-là, là, est-ce que la requête en habeas corpus serait irrecevable?
Votre Seigneurie, on ne pourrait pas plaider que le juge a agi. On pourrait toujours dire qu'il s'est trompé dans les motifs de 515, mais c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas compétence pour le faire. Il a agi sans compétence. Alors, c'est pas 515 qui intervient. Je vous signale que 515 pourrait intervenir, parce qu'il n'y a pas eu non plus aucun bris à 515. Mais bien que je pourrais le faire en disant qu'il s'est trompé sur 515, le premier principe, c'est qu'il a excédé sa compétence et que la Cour, dans Moisan, la Cour supérieure, le fait par le biais d'un bref d'habeas corpus. Je pense que cette détention-là était illégale. Et évidemment, votre Seigneurie, on se retrouve avec les violations constitutionnelles du droit à la liberté, l'article 7 également. Alors, on peut le regarder parce que la charte ne doit pas être interprétée de façon formelle, mais on peut le regarder de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, monsieur le juge, si monsieur est détenu illégalement et que monsieur se présente lundi, on pourrait être lundi et avoir la même situation si le juge a la même attitude. C'est pour ça que la prohibition va de soi, votre Seigneur. Alors, ce qui m'a vraiment là, surpris dans le jugement du 1er mars, c'est que le juge dise que c'est à la lecture des motifs qui a décidé de l'incarcérer. Alors, c'est vraiment quand une personne demande un droit, là, pas, je dis pas qu'il est bien fondé, ce droit-là, mais qu'on fasse une requête qui m'apparaît juridique, à tout le moins l'entendre et non pas se choquer immédiatement là, sur cette requête-là. C'est ce que je voulais vous... On a toujours bien le droit de présenter une requête sans avoir à subir les foudres, là, comme je l'ai mentionné, là. Et comme je vous l'ai mentionné également, ce n'était pas puéril. Je pense que je vous ai présenté les éléments pertinents.
Merci, M. Lapointe. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à première vue, en lisant le jugement, évidemment, on n'est pas habitué au jeu et au... il semble que le juge ait pris ça bien personnel, ce qui s'est passé, en apparence. Là.
Ben, écoutez, oui. En fait, pour ce qui est de ce que vous abordez, là, cet aspect-là...
Je ne veux pas vous déranger, je donne mon état d'âme.
Oui, oui, effectivement.
Et en passant, en donnant un état d'âme, je peux peut-être vous dire également qu'il n'est pas un peu étonnant que, sans qu'il y ait d'autres causes pour changer les conditions de mise en liberté de l'accusé, soudainement, il devient incarcéré.
Non, écoutez, là, je vous...
Alors, je vous lance ça, puis là, je vous...
Oui, tout à fait. Bon, écoutez, tout d'abord, peut-être pour rétablir l'exposé qui vous a été fait par Maître Lapointe, quant au, à la façon dont s'est déroulé là, les procédures. Effectivement, monsieur a plaidé coupable le 9 juin 2009 aux accusations. À ce moment-là, dans le cadre de négociations entre les parties, représentées à l'époque par Maître Martin, ainsi que Maître Ouellet qui représentait les co-accusés, car il y avait plusieurs co-accusés dans le dossier. Les parties en sont venues à une entente, comme c'est le cas habituellement dans le cas du plea bargaining qui se fait et qui est garant d'une saine administration de la justice. Les parties en sont venues à faire des représentations au juge, à l'effet qu'il y avait reconnaissance, il y avait plaidoyer de culpabilité qui était offert. Et également, la couronne, malgré le fait que suite à une enquête sur remise en liberté, M. Jean-Baptiste avait été était demeuré détenu compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la preuve qui avait été soumise au stade de l'enquête sur remise en liberté. Donc, malgré cela, compte tenu du plaidoyer de culpabilité qui était offert, de la reconnaissance des faits et de l'agir criminel, les représentations qui ont été faites de commun accord par les parties, était que la couronne consentait à la remise en liberté de l'accusé, compte tenu du fait qu'il a fait valoir des raisons humanitaires. Et là, je comprends que Maître Lapointe fait allusion du oui, bon, ça n'a jamais été mentionné. Quoi. Mais le 9 juin, ça a été expliqué sous enregistrement les raisons pour lesquelles la couronne, malgré le fait que l'individu avait des antécédents, malgré le fait qu'il s'agissait d'un crime sérieux qui recommandait une peine d'incarcération fédérale, pour des raisons humanitaires et compte tenu du fait qu'il y avait maintenant une reconnaissance des faits, une reconnaissance également que l'accusé était prêt à subir les conséquences de ses actes, que pour raisons humanitaires, la couronne était prête à suggérer au juge, malgré ses réticences, de remettre l'accusé en liberté afin de lui permettre de s'occuper effectivement de son enfant, de remettre la garde à quelqu'un, de s'occuper également de ses biens dont il devait disposer. Et tout ça a été établi au juge clairement. M. Jean-Baptiste était présent tout le long de ce long argument. Le juge a également, donc compte tenu de cette situation, a pris d'énormes précautions pour s'assurer que c'était une entente commune, que toutes les parties étaient d'accord à cette entente et qu'il agréait à cela. Donc, clairement, la couronne, la raison pour laquelle elle a remis l'accusé, oui, il y avait d'abord la reconnaissance, le plaidoyer culpabilité, mais les raisons humanitaires exposées. C'est très important ici. Il y avait une entente entre les parties. Et on avait, pour permettre... Et il y a également un co-accusé.
J'imagine que les autres conditions de 515, en d'autres mots, je pense que la couronne était convaincue qu'il se représenterait. Il était convaincu que ça ne représentait pas un danger pour la société, puis que... Un public bien informé ne serait pas insulté ou peu importe le terme qu'on veut utiliser là, par le fait qu'il soit en liberté. Je mets ces conditions-là également, la couronne est satisfaite.
Ben oui, tout à fait. Dans le cadre de la reconnaissance, dans le cadre de l'admission, il connaissait très bien les conséquences, reconnaissait le tout. Également, dans le cadre de discussion avec les enquêteurs au dossier qui connaissaient bien le sujet, qui étaient en mesure de l'encadrer, de le retrouver s'il y avait quoi que ce soit, on considérait qu'il s'agissait d'un risque calculé et que pour une saine administration de la justice, pour un règlement global du dossier et également pour permettre aux individus détenus de régler leur dossier personnel, qui, je veux dire, c'est quelque chose là, qui est commun pour tout accusé qui doit faire une longue période d'incarcération. Lorsqu'expliqué, lorsque reconnu, je ne crois pas qu'il est déraisonnable de permettre à ces individus de régler leur dossier, de gérer leur situation familiale afin de permettre de, par la suite, rencontrer leur entente là, qu'ils ont passée. Et donc, compte tenu de cela également, compte tenu qu'une entente globale était convenue, un autre co-accusé qui était détenu a été remis en liberté, compte tenu de son plaidoyer de culpabilité. On a donné une longue période de temps, également, afin de permettre à ces individus de régler tout ça. On a convenu donc la date du 27 novembre 2009 pour faire nos représentations.
Là, on était à quelle date? Là? On était
au 9 juin.
Juin.
Donc...
Est-ce qu'il y avait des conditions onéreuses de mise en liberté?
Oui, monsieur avait un dépôt à formuler. Il y avait des différentes conditions qui avaient été imposées. L'enquêteur connaissait son adresse, connaissait les allées et venues de l'individu. Donc, c'est certain qu'on s'assurait là, qu'il n'y a pas de récidive possible. On connaissait le métier de monsieur, chauffeur de taxi, etc. Donc, Par contre, tout l'été passe, on est prévenu, Maître Lapointe avoue qu'il a été contacté quelques semaines avant la date du 27 novembre. En aucun moment, donc il y a une très longue période de temps qui a passé entre-temps. Par la suite, à aucun moment, donc avant le 27, la couronne n'a été avisée de la part de Maître Lapointe ou de quelqu'un de son bureau qu'une requête allait être produite ou à tout événement qu'il n'y aurait pas de représentation sur les sentences en date du 27. La veille, Maître Gary Martin, qui représentait jusqu'à ce moment M. Jean-Baptiste, a, par courtoisie, m'a contacté pour me faire part de cela. Donc, le lendemain, je me présente, croyant voir Maître Lapointe pour entendre ce qu'il avait à dire, formuler une demande. Maître Lamoureux était présent. À ce moment-là, effectivement, Maître Lamoureux a spécifié qu'il allait avoir une requête, un retrait de plaidoyer qui serait signifié que Maître Lapointe ne pouvait pas être là. À ce moment-là, compte tenu du changement d'attitude de l'accusé, compte tenu du fait qu'à ce moment-ci, il ne reconnaissait plus son plaidoyer et qu'il, bien entendu, rompait l'entente qui avait été passée par les parties. J'en suis venu à la conclusion qu'il s'agissait d'un motif justificatif qui, à ce moment-là, n'assurait plus la présence de l'individu et le respect de l'entente qui avait été conclue entre les parties. Et donc, c'est ce qui a été plaidé. Mais donc, pour ces motifs, la poursuite avait donc l'intention, effectivement, compte tenu qu'il y avait un changement d'attitude, que maintenant il n'y avait plus aucune reconnaissance des faits, plus aucune reconnaissance de l'agir criminel. Donc l'individu à ce moment-là, qui 6 mois plus tôt presque, reconnaissait la problématique, reconnaissait ses actes criminels, était prêt à en subir les conséquences. Maintenant qu'il avait complètement changé de venue, et pourtant c'était un individu déjà criminalisé, qui connaissait les rouages, qui connaissait les fonctionnements du système de justice, a toujours été représenté par des avocats lors de ses autres dossiers, dont Maître Martin. Il attend 3 semaines avant la date de représentation pour appeler un autre avocat, disant « Ah là, non, je suis plus à l'aise avec ça, parce que c'est ce qu'il est venu témoigner. Non, je suis plus à l'aise avec ça. » Et on ne prévient pas la couronne non plus, qui se prépare en vue des représentations. On se présente là. Donc, la couronne, bien sûr, compte tenu de ce changement de venue, et c'est ce qui a été plaidé, là, et je vous en ferai part, c'est la décision Obadia de la Cour d'appel qui, je vous soumets respectueusement, peut s'appliquer par analogie à notre dossier et qui est toujours d'actualité. Ça a été cité dans Camieré récemment, dans la Cour d'appel en 2010, concernant justement une entente rompue entre les parties.
Quand vous parlez d'entente rompue, je peux vous dire ça souvent, là.
Oui.
Est-ce que la décision de consentir à ce que monsieur soit mis en liberté est directement lié au plaidoyer de culpabilité? Ou c'était pour des raisons humanitaires, indépendamment du plaidoyer de culpabilité?
Non, bien écoutez, dans le cadre de nos négociations, bien entendu, on consentait à la remise en liberté moyennant un plaidoyer de culpabilité à ce stade-ci. Sinon, nous étions au stade de l'enquête préliminaire. S'il y avait eu renonciation, on aurait fixé à date proche le procès. Mais dans le cadre de négociations, bien entendu, s'il n'y avait pas eu de plaidoyer de culpabilité, on aurait pu obtenir une date rapprochée de procès compte tenu que l'individu était détenu. Et le procès aurait eu lieu et probablement que l'effet recherché aurait peut-être été le même. Mais là, compte tenu des négociations, compte tenu du fait que l'accusé évitait un procès, plaidait coupable au stade de l'enquête préliminaire, que tous les protagonistes du dossier plaidaient coupable également, la couronne a été prête, suite aux représentations faites par Maître Martin et Maître Ouellet, à une remise en liberté compte tenu du caractère humanitaire. Je vous dirais franchement que les parties n'ont pas fait ces représentations-là sans proposer qu'il y aurait un plaidoyer de culpabilité. Comprendrez. Donc, par la suite, donc, lorsque le 27 novembre, on se présente dans la salle, compte tenu, effectivement, le Maître Lapointe a reconnu là, que le juge avait juridiction en vertu de 523. Je vous soumettrai que 523, le premier alinéa 1, fixe plutôt les balises ou indique là, à quel juge, le juge, quelle est la combien de temps que l'ordonnance rendue reste en vigueur. Là, on parle que ce soit une citation à comparaître, une promesse ou un engagement, comme c'est le cas ici. Donc, elle demeure, lorsque c'est le juge du procès, puisque c'est le cas ici, le juge du procès demeure saisi du dossier jusqu'au prononcé de la sentence, comme c'est indiqué en 523.1b1. B2i, si vous voulez, lorsqu'il est déclaré coupable et qu'il attend le prononcé de sa sentence. Mais le pouvoir de remettre en liberté ou de rendre une nouvelle ordonnance est indiqué à 523.2. L'ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention. Et ça a été reconnu par Maître Lapointe également, là, que le juge possède cette juridiction s'il y a des motifs justificatifs qui lui sont présentés. Il peut annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue dans la présente partie qu'il estime justifiée.
Ça prend une requête.
Ça ne prend pas, ben, pas en vertu de 523. 520, 521, 522, requête en révision, effectivement. Et c'est cette requête-là auquel fait allusion mon confrère. 521, paragraphe 2. Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n'ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de 2 jours francs au moins. Ça, c'est prévu pour les appels à la Cour supérieure en révision. Au stade de 523.2, il n'y a aucun avis écrit qui est nécessaire à ce stade-là. La Couronne, malgré tout, par courtoisie, a quand même annoncé verbalement, dans la salle de cour, sous enregistrement, qu'elle entendait présenter une requête au juge pour annuler l'ordonnance rendue antérieurement. Maître Lamoureux était là. Monsieur Jean-Baptiste était présent dans la salle également. Donc, à ce moment-ci, la Couronne avait dûment informé la défense de son intention de présenter des motifs justificatifs justifiant l'annulation de l'ordonnance. Et je vous soumets respectueusement qu'en vertu de 523, les pouvoirs conférés au juge du procès, aucun avis écrit n'est requis pour ce type de demande. On peut juste prendre pour faire une corrélation à 523.2. B, au juge de paix à la fin de l'enquête préliminaire. Je ne pense pas qu'aucune partie doit faire un avis écrit pour demander à ce moment-là, suite à l'enquête préliminaire, une nouvelle demande de remise en liberté ou d'incarcération civile. À tout événement, je vous soumets que donc, pour ce qui est de...
Mais quand vous dites de son propre chef, il faut quand même qu'on présente des motifs. Là.
Oui, bien, tout à fait.
Okay.
La Couronne avait des motifs à présenter à la Cour et c'est ce qu'elle a fait le 4 décembre. Donc, monsieur le juge, le 27 novembre, c'est ce qui se passe. La défense est avisée. Maître Lamoureux est là. Elle annonce l'intention de son client. Très bien. La Couronne également, compte tenu du changement de venue, et également compte tenu, mais principalement, vous avez pu prendre connaissance des arguments qui ont été formulés là, par la poursuite dans les notes sténographiques du 4 décembre, les plaidoiries qui ont été présentées. Obadia qui a été soumis pour faire l'analogie par rapport à notre dossier. Donc, à ce moment-là, on reporte au 4 décembre. Maître Lamoureux fait parvenir la requête à la Couronne telle que demandée par le juge. À ce moment-là, on se présente à nouveau, encore à brûle-pourpoint, un matin en disant « on n'est pas prêt, on va vous demander une remise ». Ça fait 2 fois, là, monsieur le juge, que ça se passe. Je comprends qu'il y a le principe de « on ne doit pas… mon collègue fait référence à Béliveau qui parle de « on ne doit pas refuser un ajournement », etc. Mais écoutez, monsieur le juge, parce que là, la part de la défense, on n'a pas fait preuve de diligence. Il y a également d'autres co-accusés qui devaient subir, qui devaient être là pour les représentations sur sentence. Tout le monde était là le 27, tout le monde était là le 4. À 2 reprises, on se présente, on dit « on n'est pas prêt, on veut reporter, je n'ai pas été avisé ». Écoutez, monsieur le juge, la Couronne est prête à chaque moment. La Couronne a également un agenda très occupé. Je comprends que Maître Lapointe était dans un très gros procès. Par contre, il a décidé de le prendre, le mandat. Hein, il n'avait aucune obligation de se faire, là, de prendre le mandat que lui offrait monsieur Jean-Baptiste. le délégué...
Moi, ça m'apparaît être des motifs suffisants, ça.
C'est-à-dire?
Ben, quelqu'un qui est pris dans les ombres, un long procès, puis il a accepté, c'est vrai, de l'autre mandat, mais,
oh, mais on...
c'est la vie, ça. C'est la vie professionnelle, ça.
Oui, tout à fait, M. le juge. On n'a pas plaidé non plus les requêtes en retrait de plaidoyer à cette date-là. Mm. Par contre, et c'est pas ce que la Couronne demandait non plus, malgré qu'elle était prête, mais elle n'a pas demandé, exigé à ce que la requête soit entendue. On a avisé que pour des motifs justificatifs, une semaine au moins une semaine avant, si ce n'est pas plus, peut-être deux semaines.
C'est le 27 novembre, ça, vous dites, ou bien mm-hmm. c'est le 4 décembre?
Non, 27 novembre.
C'est le 27 novembre, ce qui arrive, il n'y a rien qui se passe le 27 novembre?
Non, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est à ce moment-là que la Couronne avise verbalement qu'elle présentera une requête pour, avec des motifs justificatifs pour annuler l'ordonnance.
Puis on arrive au 4 décembre.
On arrive au 4 décembre. À ce moment-là, je comprends que mon confrère dit qu'il n'est pas prêt pour la requête. Le juge, par contre, veut entendre nos arguments quant à la remise, l'annulation de l'ordonnance qu'il a rendue antérieurement. Maître Lapointe demande une remise. Le juge, manifestement, la refuse puisqu'il veut entendre nos arguments. À ce moment-là, le juge est tout à fait dans son droit là, de refuser ou d'accorder une remise. Donc, on procède.
Maître... Je vais vous écouter, là, mais ouais. Quand je lis ça, là, il est... le premier juge avec égard, là, il veut faire vite. Là. Et qu'est-ce qui s'est passé, donc? On dirait qu'il prend ça bien personnel. Ben,
écoutez,
parce que l'avocat dit, écoutez, il faudrait voir mon médecin. Là. C'est pas déraisonnable, ça?
Non, c'est pas déraisonnable, monsieur le
qu'est-ce
juge.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends que peut-être Maître Lapointe s'est senti bousculé, M. le juge, là. Mais on avait, ça fait à deux dates consécutives, plusieurs avocats se présentent, plusieurs accusés également se présentent, ils veulent savoir à quel moment là, ils seront sentencés, à quel moment ils devront purger. Il y a des gens qui sont en attente, là. Également, M. Jean-Baptiste il annonce une requête, et là, Maître Lapointe, pour toutes sortes de raisons qui sont peut-être très valables, demande à ce que ce soit reporté en février, en mars, etc. Écoutez, il y a des gens qui sont en attente d'être sentencés. Mmh. Il y a des gens qui sont dans l'incertitude. Et là, parce qu'un avocat décide de prendre un mandat qu'il n'aura peut-être pas le temps d'honorer, demande des remises et des remises. Écoutez,
ça, là, j'aime pas ça quand vous dites ça de même, en tout cas. Je comprends ce que vous dites, là, mais...
Mais écoutez,
je pense pas qu'il y ait eu d'abus de la part de l'avocat...
Mais pas nécessairement, mais on tentait de trouver des dates qui convenaient, puis les dates ne convenaient pas parce que Norbourg se continuait, ça se continuait, on peut comprendre. Par contre, il y a des gens qui attendaient d'être sentencés. Le juge devait également siéger au tribunal des professions en début d'année, ce qui amenait extrêmement loin. Il y a aussi le fait que, on n'a pas été prévenu. On était prévenu à la dernière minute, alors que Maître Lapointe le savait déjà quelques semaines à l'avance qu'aucune représentation n'allait se faire le 27. On reporte une prochaine date. On n'est toujours pas disponible. À un certain moment, écoutez, je ne pense pas que cette notion peut être prise pour de la partialité. Je vous soumets respectueusement qu'un juge, oui, doit être impartial, mais ne doit pas être neutre, et je vais en revenir. Et chaque personne est différent. Et chaque juge a sa limite également lorsqu'il vient le temps d'être indulgent sur différentes remises. Par contre, bon, quant à ça, et par la suite, bon, pour en revenir au moment du 4 décembre, le juge a entendu les représentations de la poursuite et par la suite était disposé à entendre Maître Lapointe, qui à ce moment-là a continué de tenter de plaider pour une remise. Alors qu'il avait la parole, il était temps pour lui maintenant de faire ses représentations quant à la demande qui a été formulée par la couronne. Je vous soumets également qu'à la lecture de ça, on voit qu'il, en continuant d'argumenter sur sa demande de remise, argumente également sur le bien fondé ou les motifs justificatifs soumis par la couronne. Donc, c'est comme une plaide sans plaider, en espérant peut-être que ça soit remis. Et finalement, il y fait ses représentations. On aurait pu demander à son client de s'avancer. Il ne l'a pas fait. Le juge était prêt à reporter. Non, je ne serai pas là. Mon docteur, peut-être. Je comprends que ça peut paraître bousculé. C'est parce que là, on est prêt. Nous, tout le monde est prêt. On fait les représentations. On les amorce. Maître Lapointe aussi fait ses représentations. À ce moment-là, il y a...
Quand on fait la revue historique, oui. Entre le mois de juin et le mois de novembre, il n'y a personne qui était bien pressé.
Non, mais écoutez, c'est entendu que les représentations avaient lieu le 27 novembre. Je comprends qu'il n'y avait pas de presse à ce moment-là, parce que l'entente était passée. Le 27, on faisait les représentations.
Ce qu'on me dit, là, c'est qu'essentiellement, ça devient urgent, parce que l'accusé a décidé de retirer son plaidoyer. Vous me dites, non, c'était dans le cours normal des choses, il fallait sentencer, puis tout ça.
Non, ben en fait, c'est parce qu'il y avait...
On devait faire des... pour retrait, entre autres.
Pardon?
Il fallait procéder sur la requête pour retrait de plaidoyer.
Ben en fait, moi, ce que je vous soumets, monsieur le juge, puis... Bon, vous connaissez probablement Obadiah, là, pour... mais dans ce que j'ai plaidé, et Obadiah, là, qu'on parle que... mentionne, par exemple, à la page 4, que dans les semaines qui suivent l'imposition de la peine, le ministère public se pourvoit...
Vous copiez pour moi, là?
Oui.